dimanche de Pentecôte, n'est-ce pas? Et pour nous, c'est un jour particulier parce qu'il nous rappelle des choses extraordinaires, non pas simplement des choses du passé, mais des choses pour aujourd'hui. Alors, il nous arrive fréquemment de prêcher sur la puissance de la Pentecôte, mais ce matin, je voudrais m'attacher avec vous à parler au sujet plutôt de l'esprit et de la vision de la Pentecôte. Parce que tout simplement, à quoi sert la puissance de la Pentecôte si elle ne s'accomplit pas dans la vision de Jésus? Elle nous est bénéfique, certes, mais en elle-même, elle ne produira aucun fruit. Elle doit s'inscrire dans quelque chose. Et d'ailleurs, vous le savez, dans ce verset d'introduction des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 8, Jésus nous parle de cette promesse de la puissance, ce revêtement de puissance de l'Esprit qui est venu à la Pentecôte, mais il nous dit que cette puissance nous est donnée. Nous est donnée pour une mission. Et cette mission s'inscrit dans une vision. Et la vision de Jésus n'est pas une vision limitée, mais c'est une vision universelle. D'ailleurs, je crois qu'elle contient l'univers entier. Mais pour ce qui nous intéresse, et c'est là le plus important, nous croyons que tout peuple, toute nation, tout homme, tout individu a une place dans cette vision. Et Jésus l'a dit, vous recevrez ma puissance, mais c'est afin que vous soyez mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. La vision de Jésus est grande, elle est sans limite. Mais dans cette vision, nous avons tous reçu une part. Nous avons une portion. Mon frère, ma sœur, tu as une portion dans le champ du royaume de Dieu. Cette portion, Dieu te la donne. Et il te donne non seulement une portion, mais par la puissance du Saint-Esprit, il te donne une puissance pour travailler dans cette part qui est la tienne. Tu as une part avec une puissance, et l'Église que nous formons a aussi une part, un champ d'action. C'est Dieu qui nous l'a donné. La Bible dit, il nous l'a distribué, il nous l'a attribué, il nous l'a assigné. Et nous devons y travailler. Grande est la vision du Seigneur. À nous de bien la remplir. Mais nous savons que dans l'accomplissement de cette mission et de cette vision, il nous arrivera de faire face à des obstacles, des limitations. Et certaines de ces limites sont certes des limites spirituelles, parce que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Mais je voudrais vous dire que certainement les limites les plus difficiles à passer, celles qui sont les plus restrictives, ne sont pas celles qui concernent les autorités, les dominations, mais sont celles qui ont trouvé place dans nos cœurs. Ces limites intérieures, ces auto-limitations, qui nous empêche de rentrer pleinement en tant que disciples et en tant qu'Église dans le champ que Dieu nous a donné. Dieu nous donne une part dans son champ. Alléluia. Et puis nous fixons des limites. Nous nous fixons des limites. Et il y a aussi des limites qui existent et qui sont des limites spirituelles. Il y a donc des limites qui veulent nous tenir en dessous de ce que Dieu est prêt à nous accorder dans sa grâce. Nous allons lire dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, du verset 13 jusqu'au verset 16. Et Paul va nous parler ici de cette part qui est la sienne et qu'il a reçue dans l'œuvre de Dieu et de son désir de bien la remplir par la grâce et les dons du Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Il nous écrit, pour nous ne voulons pas nous glorifier autre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Et nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous, dans notre propre domaine, en évangélisant les contrées situées au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier dans ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Amen. Aimez-vous travailler dans des limites? Pour certains, c'est un cadre rassurant. Il y a des caractères qui sont ainsi faits, qu'ils ont besoin de savoir où ils vont, ce qu'ils font, et d'avoir quelque chose donc de bien établi, de bien défini. Pour d'autres, par contre, il semblerait que leur parler de limites, ça soit leur parler de contraintes. Et la première des choses qu'ils font, c'est de s'activer à briser ces contraintes et à dépasser les limites. Sans même chercher à remplir l'espace qui est déjà le leur, leur premier souci, c'est d'aller au-delà des limites qu'on leur a assignées. Certains dans l'Église pensent même que parler de limites, c'est freiner l'action du Saint-Esprit. Et donc, ils vont de ci, de là, de droite, de gauche, pensant qu'ils peuvent agir à leur guise. Mais nous voyons que tel n'était pas l'enseignement de l'apôtre Paul. Il allait là où le Seigneur l'envoyait. Il allait convaincu que Dieu avait pour lui une part dans son royaume et son désir était de travailler dans le champ que Dieu lui confiait. Il savait qu'il avait une part et que les autres avaient une autre part. Et son désir n'était pas d'empiéter sur la part des autres, mais, comme il le dit souvent dans ses épîtres, de travailler à sa part, voire même de combattre dans sa part. Travailler parce qu'il fallait s'engager et combattre parce qu'il y avait souvent des oppositions et des obstacles à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans son champ d'action. Nous avons tous une part dans le royaume de Dieu. En tant qu'individu, et en tant qu'Église. Et notre mission, par la puissance du Saint-Esprit, par les dons que Dieu nous distribue, c'est de bien remplir la part qu'il nous accorde. Alors arrêtons-nous sur cette part, cette notion de part, de portion, de champ d'action, et essayons d'en trouver les différentes composantes. Tout d'abord, elle est spirituelle. Parce que la part que Dieu nous donne est liée à son appel. Et Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Un appel non seulement à le servir dans la prière, à le servir dans l'Église, mais Dieu a aussi ce qu'on appelle un appel spécifique, où il nous envoie, il nous prépare pour une mission qui sera notre mission, notre part dans son royaume. Et il ne nous laisse pas simplement avec un commissionnement, mais il nous donne aussi son esprit. Et la puissance du Saint-Esprit est accompagnée de dons spirituels, qui sont des armes efficaces, puissantes, pour travailler et combattre dans la part qu'il nous donne. Dieu a un appel pour ta vie. Et Dieu a une puissance pour que tu accomplisses cet appel. Et cet appel, cette part que Dieu te donne, se manifeste parmi les hommes de manière très concrète. Il y a là une composante géographique. Dieu nous envoie à un endroit particulier. Certains sont peut-être envoyés vers des peuples non atteints par la parole du Seigneur. D'autres sont appelés à travailler dans le lieu où ils vivent. Et l'appel de Dieu, la part de Dieu pour ta vie, peut consister déjà à œuvrer pour lui là où Dieu t'a placé à ton travail. Ce qui doit t'amener, mon frère, ma sœur, à ne plus regarder le lieu où tu travailles comme un lieu de corvée, comme un lieu où tu dois faire quelque chose pour gagner un salaire. Mais c'est peut-être le lieu dans lequel le Seigneur te place pour que tu puisses travailler à l'avancement de son royaume. Quel que soit l'endroit où Dieu t'a placé, une entreprise, une administration, une école, un hôpital, c'est là ta part et c'est là que le Seigneur t'envoie. Ça peut être aussi ton quartier, ton environnement familial, amical. Et puis Dieu nous envoie aussi vers des hommes. Il nous permet de rencontrer des hommes, d'avoir des amis, de travailler parmi telle population. Certains vont travailler comme plusieurs le font dans notre assemblée parce qu'ils en ont l'appel de Dieu parmi les Juifs de notre pays. D'autres vont travailler peut-être parmi les musulmans. D'autres vont travailler parmi les SDF. D'autres vont travailler auprès des personnes âgées. D'autres ont à cœur toutes sortes de choses. Les hommes sont tellement divers. Et Dieu a un plan de salut pour chacun d'entre eux. Je crois aussi que Dieu peut nous amener dans des secteurs très particuliers. Que ce soit le domaine de la science, de la culture, le domaine des finances, de la politique. Dieu nous y place afin que nous puissions servir son royaume. Et voyez-vous, cette part géographique, humaine et spirituelle forme notre sphère d'autorité. L'endroit où Dieu nous a placés est un endroit particulier. parce que c'est là que l'Esprit de Dieu va se manifester particulièrement à travers notre vie. Ce n'est pas en cherchant à empiéter chez les autres que nous allons avoir de l'autorité, mais c'est en travaillant à l'endroit où Dieu nous a placés. En étant à l'endroit où le Seigneur nous a envoyés, l'Esprit Saint va se manifester d'une manière particulière dans notre vie. Et bien sûr, la première des choses, c'est de jeter un regard juste sur l'endroit où Dieu nous a placés. Et de ne pas dire, mais c'est quoi cette part ? De ne pas avoir du dédain. Et de regarder vers les autres en disant, mais eux, regarde ce qu'ils ont, et moi, regarde ce que j'ai. D'ailleurs, sachez que les autres ont le même regard. Il appartient que nous ayons la vision juste, tout comme Jésus a jeté ses regards sur notre vie. Seigneur, change mon cœur à l'égard des choses vers lesquelles tu m'as envoyé, que tu m'as confié. Si vous êtes dans votre champ d'action, vous connaîtrez alors vraiment la manifestation de la puissance du Seigneur. Malheureusement, pour différentes raisons, il arrive trop souvent que nous ne remplissions pas tout l'espace de notre sphère d'autorité, tout l'espace humain, géographique, spirituel que Dieu nous assigne. Je voudrais vous donner une image. Dans le deuxième livre des rois, au chapitre 13, Élisée est mourant et le roi d'Israël, Joas, est venu à sa rencontre pour une dernière entrevue. Et là, Élisée va lui dire d'abord de décocher une flèche à travers la fenêtre en direction de ses ennemis. Et ensuite, il va lui dire « frappe le sol avec tes flèches ». Et le roi va commencer à s'exécuter et il nous est dit qu'il va frapper le sol d'une première flèche, d'une deuxième flèche, d'une troisième flèche, et puis il va s'arrêter. Et alors, Élisée va l'interpeller, mais tu aurais dû frapper 5 fois, 6 fois, et alors ta victoire aurait été complète. Et voyez, ce qu'a fait ce jour-là Joas ressemble à ce que nous faisons trop souvent. Nous frappons 1 fois, nous frappons 2 fois, nous frappons 3 fois, et nous nous arrêtons. Pourquoi nous arrêtons-nous ? Est-ce que c'est Élisée qui avait dit à Joas de s'arrêter ? Non. Quelqu'un nous dit de nous arrêter ? Non. Mais nous nous arrêtons nous-mêmes. Et nous n'allons pas jusqu'au bout de tout ce que Dieu a préparé pour nous, de tout ce que Dieu est prêt à nous donner en tant qu'individu et en tant qu'Église. Et la plupart des limites que nous rencontrons dans l'accomplissement de notre mission, je vais les appeler des auto-limitations. Nous nous limitons nous-mêmes. Et les limites que nous nous imposons sont beaucoup plus restrictives que même les limites que les dominations spirituelles veulent nous imposer. Lorsque nous revenons aux actes des apôtres, à la parole de Jésus, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut nous rappeler que le Seigneur adresse cette parole à des gens qui, pour la plupart, n'ont jamais quitté la Galilée, à part quelques séjours à Jérusalem. Et quand il leur parle des extrémités de la terre, ils ne sont pas capables, comme nous, de se représenter une planisphère. Mais pour eux, les extrémités de la terre, ça ne veut pas dire grand-chose, sinon que terre inconnue. Et donc, c'est un défi qui les dépasse complètement. Et si nous regardons sous cet aspect-là le livre des Actes des Apôtres, nous nous rendons compte qu'en fait, ce livre, c'est le livre où le Saint-Esprit a poussé régulièrement des hommes à aller plus loin. Des hommes qui n'avaient pas forcément envie d'aller plus loin. Ils avaient bien entendu la parole du Seigneur, mais ils n'avaient pas en eux forcément le désir de l'accomplir. Et ils se limitaient souvent. Nous voyons par exemple que il a fallu que Dieu appelle un homme comme Philippe pour aller prêcher l'évangile aux Samaritains. Et c'est ensuite que les apôtres sont venus parce qu'ils ont entendu qu'il y avait un réveil en Samarie. Nous voyons d'abord que le Seigneur a visité Corneille par un ange et il a fallu que Dieu soit très pressant avec Pierre à travers la vision de la nappe pour que Pierre accepte d'aller chez Corneille le païen. Et il a fallu encore une vision d'un Macédonien pour amener Paul à franchir le détroit et à passer de l'Asie en Europe. Ils ne savaient pas où ils allaient. Ils se limitaient. Ils se limitaient à leur sphère culturelle, à leur sphère religieuse, à leur sphère géographique, alors que le Seigneur voulait les amener plus loin. Dieu a une grande vision. Quand trop souvent l'Église et les chrétiens ont une vision restreinte, et la vision du Seigneur nous dépasse. Et laissez-moi vous dire aussi que la part que le Seigneur a pour notre assemblée et la part que le Seigneur a pour vous, pour moi, nous dépasse. Et pour rentrer dans cette vision et dans cette part, il faudra tout d'abord que toutes ces limites qui sont en nous soient enlevées. Quelles sont ces limites ? Paul, par exemple, parle à Timothée de sa timidité. Et il lui dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit, tout d'abord, de force. Il fallait que Timothée dépasse cette timidité pour rentrer pleinement dans la part que Dieu avait pour lui. Et la timidité est quelque chose qui peut nous tenir facilement les uns les autres. Mais il n'y a pas que la timidité, il y a les craintes. Les craintes de vivre pleinement notre foi, publiquement notre foi, dans un extérieur assez inquiétant, dans un extérieur hostile. Et en même temps, des craintes par rapport au fait de toutes les remises en question que cela peut engendrer dans notre vie. Servir le Seigneur dans sa vision va remettre des choses en cause dans notre vie chrétienne et dans notre vie d'église. Mais il n'y a pas que cela, il y a l'incrédulité. Une incrédulité qui se nourrit du passé. Nous avons déjà essayé. Ce n'est pas la peine. Une incrédulité qui est basée sur des constats personnels. Nous ne pourrons pas. C'est impossible. Et nous limitons l'œuvre du Seigneur. Il y a aussi l'étroitesse d'esprit, l'étroitesse de cœur. On ne peut pas faire ces choses parce que ça ne se fait pas. Ou alors, ce que nous entendons aussi régulièrement, avec un, vous savez, un beau papier cadeau très spirituel, c'est de l'orgueil. Il faut voir les choses petites. Mais c'est de l'orgueil. C'est, pardon, simplement la religiosité charnelle. Le Seigneur a une grande vision. Et d'avoir une grande vision, de grand désir pour le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qui flatte la chair, mais c'est quelque chose qui trouve sa source dans l'Esprit de Dieu. Et c'est dans ça que nous voulons avancer. Et puis, permettez-moi de mentionner un dernier point, l'avarice. L'avarice qui consiste à garder les choses que nous avons. Alors l'avarice va forcément nous amener d'abord vers la question de l'argent. Et c'est vrai que l'argent dans le royaume de Dieu a sa place pour faire avancer les œuvres, pour soutenir nos missionnaires, pour soutenir les églises, pour soutenir le développement des actions. Mais il n'y a pas que l'avarice en termes d'argent, il y a aussi l'avarice en termes de temps. Comment gérons-nous notre temps ? Le gardons-nous pour nous-mêmes ? Combien de temps consacrons-nous au Seigneur ? Et si nous étions capables non seulement de donner une dîme en argent, mais aussi une dîme en temps au Seigneur, vous savez, la dîme en temps est tout aussi précieuse des fois que la dîme en argent. Parce que nous verrions alors des choses beaucoup plus avancées. Et ce que nous voyons au niveau individuel, nous le voyons aussi au niveau de l'Église. Peut-être même encore multiplié, démultiplié. Parce que l'addition de toutes nos limites produit encore des limites beaucoup plus difficiles à passer. Et tout ça forme la culture de l'Église. Et les cultures de l'Église sont souvent des forces d'inertie qu'il est très difficile de dépasser. On ne peut pas faire ça, on n'a jamais fait ces choses. Et voyez-vous, tout ça, ce n'est pas Dieu qui nous l'impose. Ce n'est pas même l'ennemi qui nous l'impose. Ce n'est pas Satan qui nous l'impose, c'est nous-mêmes. Nous l'imposons à nous-mêmes. Et ça ne sert à rien d'engager des jeûnes, des prières, des combats spirituels pour régler ces choses. C'est nous qui, devant le Seigneur, devons réfléchir à cela et nous dire, Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie, il faut qu'il se passe quelque chose dans l'Église pour qu'enfin les limites qui sont en moi, les limites qui sont dans l'Église et qui n'ont rien à voir avec ton royaume et qui nous tiennent en dessous de ce que tu as prévu pour nous, soient abattues. Il y a quelque temps, nous entendions un très beau message sur Genèse chapitre 15, verset 5, par l'apôtre Ruben de Matos qui nous parlait de Abraham que Dieu a appelé à compter les étoiles du ciel. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Mais si vous regardez ce passage de Genèse 15, 5, vous verrez que avant que le Seigneur ne dise à Abraham de compter les étoiles du ciel, il lui dit d'abord ceci, sors, sors de ta tente. Et trop souvent, nous sommes comme Abraham. Nous voulons compter les étoiles du ciel. Oh Seigneur, ta postérité est grande. Le problème, c'est que nous le faisons sous notre tente. Alors, c'est sûr qu'au-dessus de la tente, il y a des étoiles. Mais pour pouvoir les voir et les compter, il nous faut d'abord sortir. Ce qui veut dire sortir de nos limites, sortir de ce périmètre dans lequel nous sentons très souvent en sécurité pour aller vers ce que Dieu a préparé. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, 11 à 13, d'élargir notre cœur, d'ouvrir notre cœur. Parce qu'avant de rechercher la puissance, il va nous falloir donner de l'amour et voir le royaume de Dieu venir avec puissance. Dans nos vies, dans cette ville, demande que nos cœurs s'élargissent, d'aimer tous ceux que Dieu veut ajouter à son Église. Laissez-moi vous dire qu'avant qu'ils soient soivent dans les rangées de notre assemblée, il faut d'abord qu'ils trouvent une place dans notre cœur. Car si ceux qui viendront ne trouvent pas de place dans notre cœur, ils ne trouveront certainement pas une place pour eux au milieu de nous. Alors nous pourrons dire au Seigneur, cette prière de Jabez dans 1 Chronique 4:10, « Seigneur, étends mes limites. » Conscient de cette œuvre magnifique que Dieu tient en réserve, nous dirons, « Mais Seigneur, étends mes limites. Je sors, Seigneur, et je me rends compte que je suis si petit par rapport à l'étendue des cieux. » Paul dit cela d'une autre manière. Dans l'Épître aux Éphésiens, il fait cette prière, « Que le Seigneur illumine les cieux de votre cœur. » pour que nous puissions voir la gloire, la richesse de la gloire de son héritage. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur. La part que Dieu en réserve pour notre Église, la part que Dieu en réserve pour toi, est bien plus vaste que tout ce que tu peux demander ou penser. Mais trop souvent, nos cœurs sont trop étroits. Seigneur, étends mes limites, afin que je puisse vraiment occuper tout l'espace que tu as préparé pour moi. C'est mon héritage. Alléluia. Mais il arrive trop souvent aussi, bien sûr, que dans ce travail que nous menons, nous faisons face à d'autres obstacles, les obstacles intérieurs, mais il y a ces obstacles extérieurs qui sont comme des obstacles contextuels, liés à notre environnement, liés à notre culture. Ce sont des obstacles spirituels. Nous voyons en France les églises qui grandissent, gloire à Dieu, nos églises grandissent. Nos œuvres missionnaires, nos œuvres d'évangélisation font un merveilleux travail depuis des décennies. Mais nous sentons qu'après une certaine croissance, nous faisons face à une espèce de plafond que nous rencontrons partout dans notre pays de France. Et lorsque nous comparons la qualité des ministères, des œuvres, la qualité des églises avec ce que nous pouvons rencontrer dans d'autres pays, laissez-moi vous dire, nous n'avons pas à rougir. La qualité spirituelle de nos églises tient la route par rapport à ce que nous voyons dans d'autres pays. Alors, quel est le problème que nous rencontrons? Dans les autres pays, nous voyons la croissance continuer, nous voyons les œuvres missionnaires se développer, mais il y a comme un plafond sur notre nation. Le Deutéronome parlerait d'un ciel d'airain. Et ce ciel d'airain s'est abattu sur notre pays depuis plusieurs siècles. Il s'appelle l'humanisme. Il s'appelle la laïcité. Et il a pris comme une emprise sur notre héritage chrétien qui est en train de nous étouffer. Et alors nos œuvres atteignent des niveaux maximum qu'il est très difficile de franchir. Et à cause de ce ciel d'airain, il y a un manque de puissance, écoutez-moi, un manque de puissance manifestée. Qu'est-ce que je veux dire? Prenez un évangéliste, un pasteur, un docteur, vous le faites prêcher dans l'étranger, vous le faites prêcher en France et vous verrez la différence. Le même homme, lorsqu'il prêche dans tel pays, la prédication est accompagnée de signes extraordinaires et vous le mettez ici, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a ce plafond qui est là, ce ciel d'airain, qui se manifeste aussi dans différentes formes, plus matérielles, plus concrètes, comme par exemple des manquements financiers. Nos églises, nos œuvres missionnaires sont trop faibles financièrement. Elles marchent par la foi, mais non pas pour grandir, mais pour survivre chaque année. Et beaucoup de nos frères qui travaillent dans la mission, qui travaillent dans l'évangélisation, portent année après année le fardeau de maintenir l'œuvre à flot. Alors que nous voyons des œuvres dans d'autres pays être financièrement très solide. Et ça, c'est aussi un manque pour notre pays. Et je pourrais multiplier les exemples, et notamment celui d'un... Trop souvent, nous nous contentons d'effleurer notre pays, notre société, mais nous n'arrivons pas à véritablement pénétrer le cœur de notre société, le cœur de notre ville, le cœur du monde politique, le cœur du monde des affaires, le cœur du monde médiatique, culturel, scientifique. Nous n'arrivons pas à pénétrer. Je me réjouis pour les frères et sœurs qui font un très beau travail, qui est en train de démarrer au quartier de la Défense. Et c'est un bel exemple, nous en parlerons bientôt, de choses qui peuvent se faire malgré tout, gloire à Dieu. Alors, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'appeler le Seigneur des brèches. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 5, versets 17 à 25, vous pourrez reprendre ce texte. David va livrer un combat contre les Philistins. Dans quel contexte? David vient juste d'être sacré roi, ou un roi, parce que Saül est mort. Saül est mort et sur la montagne de Gilboa, avec son fils Jonathan, défait par les Philistins. Et suite à cette défaite, l'armée d'Israël a été mise en déroute et les Philistins ont pénétré jusqu'à l'intérieur du cœur même du pays d'Israël. Ils sont à quelques kilomètres de Jérusalem. Et apprenant que David vient d'être oint roi, ils envoient les armées. Et l'armée d'Israël, l'armée des Philistins vont se faire face dans la vallée des Réphaïm. Et là, le Seigneur va opérer quelque chose d'extraordinaire. Une grande victoire va être remportée par l'armée de David, conduit par le Saint-Esprit. Et David donnera, suite à cette victoire, le nom de Baal-Peratsim au lieu de la victoire. Baal-Peratsim, le Seigneur des brèches. Dieu fait des brèches dans les rangs de l'ennemi. Dieu manifeste par son doigt la puissance de son royaume. Il est capable d'accorder des miracles signalés, comme il dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, lorsqu'il y a eu la guérison du boiteux de la belle porte, que tous connaissaient, et ils l'ont vu guéri. C'était là une brèche parmi les Juifs de Jérusalem. Dieu fait des brèches et nous accorde ses bénédictions. Le Seigneur veut faire une brèche dans les rangs de l'armée des Philistins, dans les rangs des esprits qui tiennent ce pays sous leur coupe. Il veut faire une brèche. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Car les Philistins sont revenus une deuxième fois. Une brèche, c'est déjà une victoire, mais ce n'est pas toute la victoire. Et ils sont revenus quelque temps après, toujours au même endroit. Et là, David a cherché la face du Seigneur. Et Dieu lui a dit, non, tu ne vas pas aller confronter directement l'armée du Philistin. Tu vas les prendre à revers, tu vas les contourner. Et là, tu vas te placer près des mûriers. Et lorsque tu entendras un bruit de pas à la cime des mûriers, tu engageras le combat. David a suivi le conseil du Seigneur. Il a engagé le combat. Et là, il nous est dit qu'il va remporter une deuxième victoire. Une victoire dont il est dit qu'il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Geba, c'est à quelques kilomètres de Jérusalem. C'était là le lieu maximum de la pénétration des Philistins en Israël. Eh bien, David va les battre depuis Geba jusqu'à Gézer. Gézer, c'est à 30 kilomètres. C'est à la frontière d'Israël avec le pays des Philistins. Une percée, une brèche et ensuite une percée. Le Dieu des brèches est encore capable d'agir dans notre pays. Alléluia. Soyons attentifs. Ce n'est pas forcément dans une confrontation directe que la victoire viendra. Je ne le crois pas. Ce n'est pas en confrontant notre pays, ses traditions, sa culture. Mais Dieu a des stratégies de contournement. Il va nous amener. Mais il nous faut être sensibles au bruit des pas dans la cime des mûriers. Alléluia. En conclusion, je dirais qu'en tant qu'individu, il nous appartient de dire « Seigneur, élargis mon cœur. » Nous voulons la puissance du Saint-Esprit. Mais si nous n'avons pas un désir de rentrer dans la vision de Jésus, à quoi cela sert-il? Élargis mon cœur, Seigneur. Fais-moi rentrer dans ma part, dans ma portion. Seigneur, étends mes limites pour que je puisse véritablement accomplir ton projet. En tant qu'Église, Seigneur, donne-nous d'avoir ce courage d'aller jusqu'au bout et d'enlever toutes les limites inutiles que nous nous imposons à nous-mêmes. Elles ne servent de rien. Elles ne sont là simplement que pour apaiser la chair. Mais nous voulons rentrer dans tout ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, fais-nous sortir de notre tente pour que nous puissions compter les étoiles des cieux. Illumine les cieux de notre cœur pour que nous puissions découvrir tout l'héritage que tu as en réserve pour nous. Dieu a un héritage pour ta vie. Dieu a un héritage pour notre assemblée. Dieu a un héritage pour son Église dans ce pays de France. comme il l'a dans le monde entier. Seigneur, la France fait partie des extrémités de la terre, elle n'est pas en dehors. Nous faisons partie de ta vision et nous croyons que la bénédiction viendra. Alléluia, Timothée va venir avec le groupe sur le devant pour nous conduire dans un chant, mais je voudrais prendre le temps certainement encore de louer le Seigneur. Et peut-être m'adressant à quelqu'un parmi nous qui à l'écoute de ce message sans que Dieu lui parle d'une manière particulière, pour lui dire maintenant, il est temps que tu sortes de ta tente. Il est temps que tu considères les limites que tu t'imposes toi-même. Il est temps que tu réfléchisses à toutes ces choses. Toi qui désires faire l'œuvre de Dieu, ne regarde pas la portion de ton voisin. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Aime la part que Dieu t'a donnée. Chéris-la de tout ton cœur. Travaille dans cette part. Comme Paul le dit, deviens grand dans cette part. Car c'est là que le Seigneur va te donner sa puissance et son autorité. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à cet appel ce matin ? Le Seigneur t'appelle à sortir de ta tente. Le Seigneur t'appelle à renverser ses limites. Alors je voudrais simplement t'inviter à te lever. Toi qui désires remplir la part que Dieu t'a donnée. Dans cette Pentecôte-là de cette année, c'est ce que tu désires, Seigneur. Tu ne désires pas forcément plus de puissance. Tu désires simplement que la puissance de Dieu s'accomplisse dans ta vie.